des stratégies adaptatives des espèces qui se mettent en place pendant la dynamique d'un milieu, pendant la dynamique de la végétation dans un milieu donné. Parce que rien n'est fixe, je le dis ce matin, et on peut avoir des prairies fleuries maintenant, mais ça va. Si on gère pas strictement tout le temps, ça va évoluer. Donc je vais présenter un petit peu comment moi je vois la dynamique des stratégies adaptatives des espèces en termes de la dynamique des milieux aussi. Donc il y a une connotation spatiale mais aussi temporelle. Et puis avec la régression, disparition locale des espèces, il y a besoin d'hiérarchisation des enjeux. Et donc je vais présenter une petite méthode qu'on a développée pour d'autres problématiques, notamment les problématiques des espèces protégées en France, qui pouvaient servir de méthode avec des adaptations pour hiérarchiser les enjeux pour les espèces qui vous concernent. Alors, mais pour commencer, d'autres choses qui m'a fait un peu tilt ce matin, c'était l'utilisation des termes. Donc je vais repartir de la dictionnaire un petit peu. L'adaptation, c'est quoi? C'est un processus. C'est pas une espèce adaptée, c'est un processus par lequel un organisme ou un trait, un organe qu'on peut observer, s'adapte aux conditions d'existence. Donc, et au niveau génétique, l'adaptation locale, va inclure tous les changements génétiques, donc fréquence des gènes à l'intérieur d'un individu. Et c'est ça qui va donner lieu à l'adaptation. Et l'adaptation, ce qu'on va voir, c'est le phénotype qui est le résultat des changements génétiques. Donc, ces changements génétiques sont en réponse à quoi? La variabilité du milieu. La variabilité du milieu donne lieu à des pressions de sélection. Et c'est cette pression de sélection dans un milieu donné qui va produire une adaptation. Mais c'est une sorte de balancier. Il y a l'adaptation qui va évoluer parce qu'il y a une pression de sélection. On le connaît depuis Darwin, ce processus sélection-adaptation. Mais il y a un balancier parce que ça va être contrecarré par tout ce qui est brassage, par tout ce qui est flux de gènes, par tout ce qui est migration. Donc s'il y a une migration flux de gènes qui est forte, ça pourrait empêcher une adaptation de se mettre en place. Parce que le brassage des gènes, ça va homogénéiser. Donc, la sélection sera contrecarrée par le brassage, par la migration, par les flux de gènes. Par contre, si la sélection est extrêmement forte, bah même s'il y a brassage génétique, même s'il y a l'introduction des gènes d'une autre espèce, ou une variété, ou juste d'autres populations, bah, l'adaptation se maintiendra. Parce que les gènes qui viennent de l'extérieur sont éliminés parce que pas adaptés au milieu. D'accord? Donc, ils sont de balancier entre migration et sélection qui donnent de l'adaptation ou pas. Donc, un écotype, c'est quoi? C'est pour moi une population d'individus qui présente des adaptations aux conditions locales dans lesquelles la population s'est développée. Donc, le microclimat, le sol, contraintes mécaniques, prédateurs, pollinisateurs. Donc, parler, comme j'ai entendu ce matin, d'un écotype, parce que quelqu'un a fait une étude génétique et a montré qu'il y a 3 unités génétiques d'une plante dans différentes régions, parler d'écotype, moi je dis non. Un écotype, si on identifie le processus écologique qui a donné lieu à une adaptation, là vous avez un écotype. Vous avez des entités différentes génétiques, d'accord, vous travaillez sur les plantes. C'est normal que vous trouviez des différences génétiques. Vous pouvez étudier n'importe quelle plante avec des marqueurs génétiques. Entre le nord et le sud de la France, ils vont tous montrer une différence génétique. Les plantes ne bougent pas, elles sont là, ne bougent pas. Ce qui bouge, c'est les propagules, c'est le pollen ou les graines. Ce n'est pas les animaux qui se diffusent, qui partent à la conquête de nouveaux territoires. D'accord? Et donc les plantes, caractéristiques. La caractéristique, c'est qu'elles présentent des défenses génétiques importantes entre populations. Même à l'échelle locale, je vais montrer des exemples. Pour illustrer ce que je viens de dire, je vais présenter un exemple. Et même des espèces très endémiques, parfois rares, on prend 2 populations, on trouve toujours des défenses génétiques entre les populations. Donc quand on va réfléchir en termes de souches locales importantes ou d'écotypes utiles, pour moi, c'est en relation avec le processus écologique qui a donné lieu à l'adaptation.
Je peux juste intervenir un instant. Un écotype, c'est une espèce dont le patrimoine est fixé. C'est pas comme un... J'entends parler
d'un fixé parce qu'il y a...
C'est irréversible.
C'est réversible. Probablement, si on introduit des gènes de notre population, on peut avoir deux écotypes, par exemple. Un écotype de montagne et un écotype de plaine. On met les deux ensemble, ils vont se brasser. Si on les met dans des conditions qui peuvent défavoriser les deux, en plein milieu du gradient écologique, peut-être les deux vont se maintenir. Mais normalement, l'écotype se maintiendra, même s'il y a des flux de gènes, parce qu'il est bien adapté au son milieu.
Ce qu'on appelle un accommodat, vous connaissez cette notion?
Non, mais ça doit être une espèce qui est introduite dans notre climat, qui s'adapte et qui s'accommode au régime climatique, ou des espèces qui viennent d'Afrique du Sud qui fleurissent normalement.
Non, c'est pas ça.
C'est une expression différente du même génotype, alors qu'un écotype, c'est un génotype différent.
Oui. D'accord. Un accommodat, pour moi, c'est ce que j'appelle la plasticité. Ça veut dire qu'on peut varier. Un même génotype, selon le milieu dans lequel on va le faire pousser, va varier.
Oui, mais alors ça serait... Selon mes connaissances à moi, ça serait donc tout à fait réversible. Alors, pour moi, ma notion d'écotype est irréversible.
Oui, une plante, elle-même est irréversible dans l'écotype. Elle a une composition génétique bien précise, qui est en lien avec son milieu.
Oui, mais si c'est irréversible, si on change la plante de milieu, elle garde ses caractéristiques.
Elle garde ses caractéristiques.
Alors qu'un accommodat, justement, se modifie en fonction de la culture.
Tout à fait, oui. Oui, c'est la plasticité de l'individu. Pardon.
Excusez-moi.
Mais l'accommodat, elle va pas non plus changer sa composition génétique.
Oui, d'accord. Et combien de temps, c'est très variable, j'imagine, en combien de générations, par exemple, des caractéristiques d'adaptation arrivent à se fixer?
Comme je viens de le dire, ça va dépendre de la pression de sélection. Si plus la pression de sélection est forte, plus vite
ça sera rapide.
Ça va se faire. Parce que la pression de sélection qui est très forte va éliminer rapidement tous les individus qui ne sont pas adaptés. Donc on ira beaucoup plus vite. On risque de descendre en termes de taille des effectifs, parce que la pression de sélection étant très forte, on va éliminer beaucoup de la population qui n'est pas adaptée, et après ça va remonter très vite.
Remonter
les effectifs, c'est-à-dire.
D'accord.
Oui. Donc il y a deux choses. Donc l'accommodat, c'est une sorte d'adaptation de l'individu à son milieu qui change dans le temps. Je connais des très bons exemples. La pivoine, une espèce protégée qu'on trouve au Pic Saint-Loup, elle ne va pas fleurir quand le milieu ferme. Mais dès qu'on ouvre le milieu, en l'espace de 2 ans, elle commence à refleurir. Donc ça, c'est typiquement... Mais c'est les mêmes individus qui vivent des décennies et qui s'adaptent au niveau de l'individu. Et ce n'est pas un changement génétique. Tout à fait. Okay. Donc on a ce sorte de balancier. Et un autre point sur lequel je voulais insister, c'est que, on en a parlé à midi, c'est que parler de pression de sélection, parler d'adaptation, ça veut aussi dire pour un trait ou une suite de traits, plusieurs traits, qu'on va perdre de la diversité génétique. Quand la sélection agit pour produire l'adaptation, ça fait forcément perdre de la diversité génétique. Que ça soit naturellement ou dans les mains de l'homme. L'homme, quand il a commencé à domestiquer les espèces, a immédiatement fait perdre de la diversité génétique chez ces espèces, en sélectionnant les variétés qu'il voulait. Et ça se fait dans la nature aussi. Quand un type de plante est sélectionné dans un milieu donné, on va perdre localement la diversité génétique. Par contre, s'il y a un autre type de sélection qui se passe ailleurs pour d'autres variétés dans la même espèce, on va avoir une diversité importante, mais entre les sites, entre populations, entre les sites. Ok?
Oui, excuse-moi, je rebondis encore là, sur ce que je viens de dire, parce que justement, quand on établit des protocoles de récolte, il faut essayer de prélever sur un très grand nombre de sujets.
Il faut garder l'origine, il faut réfléchir à l'origine. Pas forcément garder les origines distinctes, mais savoir si vous avez des mélanges ou pas d'origines différentes, d'avoir l'information. Dans certains cas, on peut commencer la discussion si vous voulez, parce qu'on y est. Dans certains cas, il serait très important de garder les origines distinctes, mais pas toujours. Dans certains cas, il serait peut-être bien intéressant de mélanger pour recréer un peu de variabilité.
Je parlais simplement dans une population donnée, vaut mieux prendre sur un pied que sur un pied.
C'est clair. Prenez l'objectif, c'est de prendre un échantillon représentatif, c'est-à-dire un peu partout. Donc de distancer les récoltes, les individus bien distincts. partout dans la station. Parce que souvent, dans une station de plantes, vu que la dissémination ne se fait pas beaucoup, on a des tâches qui sont des familles. Donc on va essayer de prendre dans des tâches bien distinctes.
Et John, l'information que tu amènes là est importante, mais comment elle va être transférée, nous, du point de vue opérationnel? Pour certaines espèces, il est intéressant, au contraire, de mélanger des souches génétiques d'origine différente pour recréer du brassage. Alors, tu le dis, c'est ton vrai, mais nous, on va plancher sur nos listes. On les reconnaît comment, ces espèces?
Bah, ça, c'est unique. Ça, c'est un cas extrême dont je parle, je pense, de mélanger. Hein. C'est vraiment un cas extrême. Hein. Donc on a vraiment perdu beaucoup de l'espèce, beaucoup de diversité. Il reste peut-être 2-3 populations, peut-être dans ce cas-là.
C'est une fragmentation de l'habitat.
Oui, ouais, ouais. Ça serait mieux si on a des cas d'espèces qui sont vraiment relituels, 2-3 stations. C'est peut-être intéressant au moins de faire des essais de croisement ou de mélanger pour voir ce que ça donne. Parce que force à réduire les effectifs d'une station, on va forcément perdre beaucoup de diversité. Et de viabilité de la des plantes qui restent. Ils vont souffrir de ce qu'on appelle une consanguinité parce que les individus qui se croisent ont tous une histoire génétique semblable et c'est des familles. Hein. Donc on se croise à l'intérieur d'une famille. C'est pour ça que je dis des fois, il serait intéressant de croiser entre
les
ouais.
Moi, ça me fait penser à ce que tu as dit et au problème dans le cadre de restauration ou de l'infiltration. Ce qui peut se faire sur des murs à partir du bouturage, où là on multiplie un individu, deux ou trois, ben, en gros on ne crée pas une population
pour
laquelle on a une viabilité qui est quasiment nulle.
Ça c'est clair dans tout
ça. Ça se fait fréquemment.
Tout système de bouturage, on parlait de la lavande à midi parce qu'ils ont eu des gros problèmes liés à la perte de diversité via le bouturage. Là, prenez des clones, croisez-les. Là, oui, croisez vos clones. Ah là, je ne vais pas dire plus. Hein. Vraiment, ce que j'ai fait pour France Lavande, à un moment, essayer de reconstruire une petite diversité en croisant des bonnes clones qui semblaient résister à le dépérissement qu'ils ont eu pendant les années 90 et qu'ils ont encore. Parce que c'est trop, il y a une diversité trop faible. Donc, l'autre composant donc, de l'adaptation concerne ce que j'appelle les stratégies adaptatives des espèces, c'est-à-dire l'ensemble de traits qui relient le fonctionnement des individus à leur environnement. Qu'on peut schématiser avec un triangle qui est très célèbre dans le monde scientifique, que je vais essayer juste d'introduire très simplement. Donc, c'est une réponse aux trois facteurs principaux, c'est le triangle de Grimm, qui détermine la persistance d'une plante dans un lieu donné, en fonction de le degré de compétition dans le milieu. Donc, imaginez un pelouse avec plein d'espèces, très dense, mais la compétition est très forte. Donc, la compétition étant des interactions entre les espèces. Au milieu de la prairie, au milieu de la pelouse, ça peut être à l'intérieur d'une espèce où les individus sont en concurrence pour accéder à l'espace, pour la lumière, la ressource hydrique, l'azote, tout un ensemble de choses. Deuxième facteur, qui est la résistance au stress, qui comprend tout un ensemble d'adaptations qui permettent aux espèces de vivre dans des milieux très contraignants, surtout climatiques ou adaptiques. Et dans les prairies très arides de la région méditerranéenne, c'est un facteur qui est très important. Et puis, la résistance aussi aux perturbations. Et là, le Messico, on rentre plein dedans. On les voit surtout dans cette stratégie-là. C'est-à-dire que c'est des espèces qui sont bien adaptées à la destruction de leur milieu et de repartir. C'est des espèces qui investissent énormément dans la reproduction sexuée à courte durée de vie. Donc, elles peuvent vite recoloniser suite à une perturbation et donc suite à l'activité agricole annuelle. Mais ces stratégies adaptatives changent selon le stade de la dynamique de la végétation et on passe souvent à... j'en reviendrai. Je vais juste présenter un exemple d'adaptation locale. Pour donner un exemple sur l'échelle à laquelle ça passe, que Thibault m'en a demandé de parler, aux échelles spatiales et temporelles sur lesquelles on peut observer les adaptations locales. Et c'est une plante pérenne, mais c'est une plante très locale, c'est le thym, qui pousse partout dans le sud de la France, surtout sous calcaire. Cette plante aromatique. Elle a la caractéristique de produire plusieurs essences, et on peut typer les plantes selon l'essence que ça produit. C'est des monoterpènes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais si vous êtes intéressé par un autre moment, je vous expliquerai. Et on peut typer les plantes on peut les cartographier. Les six essences. Donc, le Pic Saint-Loup qui est ici, on n'est pas allé jusqu'à là aujourd'hui, mais c'est là le Pic Saint-Loup. On a les falaises de l'Ombre qui sont face, qui sont là, et ce qu'on appelle le bassin de Saint-Martin de l'Ombre ici, qui est entre les deux. Donc, le bassin sédimentaire qui est là. Tout est calcaire, mais l'âge est très, très différent. Et on le retrouve. Il commence à voir que les rouges ne sont pas partout sur la carte, les jaunes non plus, les verts non plus. Il y a une différenciation spatiale. On ne trouve pas tous au même endroit et on ne trouve pas chaque kélotype partout. Ils sont bien locales. En effet, il y a deux grands types d'essences dans les plantes aromatiques. Il y a les types qui sont phénoliques, ces molécules fermées, hein, cycliques et fermées comme le benzène. Donc, et qui est le type phénolique. Et ça, c'est le cas entre les thymoles. Et il y a des types non phénoliques où la molécule est plus ouverte. Et ça, c'est les types jaunes, les non-phénoliques, qui sont ces quatre-là. Et si on cartographie uniquement en fonction de ces deux grands types, on voit que les jaunes sont dans le bassin et les noirs sont autour. Donc les jaunes sont coincés là-dedans et les noirs sont tout autour, sur les coteaux calcaires tout autour. Parce qu'en effet, le bassin est à moins de 200 mètres et on va jusqu'à 600 mètres au Pic Saint-Loup, à 400 mètres sur le bord de l'Ortune. 300 écarts, 400, 300 écarts tout autour. Donc les noirs en dehors du bassin. Les jaunes dans le bassin, on se dit, ben ça, est-ce que c'est adapté au milieu, comment ça marche? Et donc, pour vous donner une idée, ça nous a pris 10 ans de savoir qu'il y avait l'adaptation locale chez cette espèce. C'est difficile de montrer l'adaptation à un processus. Et on a testé beaucoup de choses. Je vais juste dire ça. Juste dire quelque chose, c'est qu'il y a une différence de climat. Il y a des sols qui sont différents. Les sols sont beaucoup plus profonds dans le bassin qui est ici. Donc il y a pas mal d'agriculture dans le bassin avec des petits coteaux de garrigue et un sol plus profond. Et il fait beaucoup plus froid. À Saint-Martin-de-Londres, la température minimale depuis les années 50, donc en plein, en plein dans le bassin. Et sur le versant sud du Pic Saint-Loup, les températures minimales les mêmes années. Donc, on n'a jamais les températures aussi basses ici qu'ici. Il peut y avoir presque 10 degrés d'écart, même, une même année, avec les minima que vous voyez, les débuts des années 60 et fin des années 50 qui ont posé des problèmes pour les oliviers en région méditerranéenne. Et puis, depuis, il fait un petit peu de. Vous voyez que là, quand on parle de changement climatique, on commence à les observer ici. Les minima qui sont plus du tout, et depuis 2004, c'est toujours resté comme ça. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'il y avait un problème lié au climat? Donc on a monté une manip. Je vais sauter sur la génétique. Ah oui, ce qui est intéressant tout de suite, c'est que les kélotypes, les couleurs varient énormément entre stations. Mais quand on regarde les marqueurs génétiques qui sont classiquement utilisés, les marqueurs typiques de la biologie moléculaire, on ne trouve pas de différenciation. Il y a des mêmes allèles un peu partout. Ce qui veut dire qu'il y a flux de gènes. Par contre, pour ce marqueur, ce trait indicateur en quelque sorte, c'est un indicateur de différenciation et d'adaptation. Là, on voit une différenciation nette. Sur moins de 6 km, mais 300 mètres de niveau. Mais même sur une échelle toute petite, on peut avoir avec un flux de gènes important, on peut voir l'adaptation parce que, pour moi, ça nous disait que la sélection doit être très forte. Donc, ce qui veut dire, si vous avez des variétés qui poussent dans un milieu par rapport à un autre, même s'il y a la possibilité de flux de gènes, on ne va pas forcément perdre l'adaptation locale. Si la sélection, si l'adaptation est forte. Parce que même si les gènes viennent, elles sont éliminées là. Le fait que ces gènes bougent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui empêche les gènes bougent en quelque sorte de venir là. Pour moi, c'est la sélection et c'est l'adaptation. Et même en face d'une flux de gènes, qui est normale sur ces échelles-là, on ne perd pas l'adaptation locale. Elle se maintient.
Donc on a monté une manip pour tester pourquoi il y avait ça. On a fait la manip typique pour tester une adaptation locale, c'est de faire des transplantations réciproques. C'est-à-dire qu'on va aller dans un site
où il y a surtout les rouges et les jaunes, et on va amener tout le monde, toutes les couleurs, toutes les chromatiques, et on va le planter là, on va voir ce qui se passe. Et en même temps, on va dans le site où il y avait les autres, et on met tout le monde. Donc ça, on a fait son plan géographique, parce qu'on a le même patron sur le plan géographique, dans des climats plus froids, plus humides, dans les hauts de la Drôme, où on pousse à l'avant de Fistinal, on a des types non phénoliques, donc on a mis tout le monde là-haut, on a mis tout le monde à côté de Montpellier, pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on observe sur une petite échelle de temps, qui sont de manipes de la recherche, un résultat? Donc ça a pris 6 ans pour savoir ce qui se passe. On a eu la chance de passer par 2003, qui était une année canicule. Et dans le site phénolique, donc toujours les mêmes couleurs, les deux, ils poussent sur les coteaux calcaires autour. En 2003, regardez la chute, la mortalité de tous les clones, de tous les chémotypes. Il y avait plusieurs clones pour chaque chémotype. Une mortalité très forte après l'été 2003. Sauf pour les rouges et les jaunes. Ils sont ceux qui vivent dans les coteaux rocailleurs plus chauds. Les autres, ils ne tenaient pas. Par contre, dans le site non phénolique, en 2003, il n'y avait pas de défense parce qu'il a plu le mois d'août un petit peu quand même là-haut. Il n'a pas fait aussi chaud. C'était des températures normales pour du temps, hein, 35 degrés. Alors qu'ici, on est juste 40. C'est-à-dire qu'une sécheresse sur 3 mois très fort. Là, par contre, c'était à la fin de l'hiver. Non, début d'hiver, le mois de décembre, on observait que les rouges, on n'est pas allé. Il y avait une mortalité très forte chez les rouges. Ils sont ceux qui ne sont pas dans le climat très froid. Et on a détecté que ces mois-ci, à la fin 2001, il y avait des gels très précoces, très forts. À chaque fois qu'il y avait une mortalité forte, des chémotypes, gels précoces, très forts. Donc, adapté à un certain régime climatique, un certain type de gel à un certain moment de l'année. Donc, une adaptation très précise, un facteur qu'on pouvait voir, mais ça a pris du temps. Donc, quand on parle d'adaptation, il faut bien réfléchir à l'idée que c'est un processus. Et que on peut passer beaucoup de temps à identifier vraiment le mécanisme qui est en jeu. Toute cette histoire, c'est un peu, petit peu pour montrer ça. Pour montrer, on peut montrer les adaptations. Les adaptations peuvent se maintenir même en cas de flux de gènes. Et que c'est complexe. Et donc, pour les stratégies adaptatives, je vais sauter sur celui-là. Juste en relation avec ce que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que. La végétation, sur une parcelle, il y a une certaine dynamique. Si on abandonne une parcelle agricole, on la laisse partir, on va observer que au départ, on a surtout des espèces qui investissent beaucoup dans la reproduction sexuée et l'acquisition rapide de ressources, qui vont coloniser. C'est un petit peu la stratégie R, le coup de rame. Mais petit à petit, au bout de 20, 30, 40 ans dans nos régions ici, on va aller vers les végétaux plus pérennes qui investissent plus dans le stockage de ressources, qui deviennent plus pérennes, vivent plus longtemps, avec un métabolisme moins fort, moins de production de graines. Donc, plus vers une stratégie de type C. Ok, donc il y a une stratégie adaptée. Il y a tout un ensemble de traits foliaires et reproducteurs qu'on a pu identifier qui vont avec ce type de stratégie aussi. On peut les identifier assez facilement avec des traits des feuilles, par exemple. La surface des feuilles, c'est un très bon marqueur de ce type de stratégie. Ou on peut analyser juste le contenu en azote des feuilles. Les espèces, on peut marquer les espèces pour voir comment elles ont, quel type de stratégie adaptative elles ont. Assez facilement. Il y a un autre type de succession, c'est la succession primaire. Là où l'homme, ou une coulée de lave ou un glacier est passé et qu'il laisse un sol totalement nu. Il n'y a pas de graines, il n'y a rien. Là, on observe dans nos régions, parce que l'homme passe avec ses routes, il crée des déblais routiers. Ce sont des falaises calcaires, en quelque sorte. Ils ne sont pas au bord de la mer, mais ça ressemble aux falaises quand même. Et on est en train de faire une étude pour essayer de voir s'il y a des stratégies adaptatives des espèces dans le temps, dans ce type de milieu, où on essaie de revégétaliser d'ailleurs pas mal ces types de milieux. Il y a même certaines zones d'études qu'on a fait. Zone qu'on a étudié, nous, il y a des tentatives de revégétalisation. Donc, on a pu dater tout un ensemble de falaises, des jeunes falaises qui ont 10, 20 ou 30 ans. On a parcouru tout un ensemble d'anciennes routes qui sont plus utilisées pour trouver des falaises qui datent du début du XXe siècle. Il y en a même des très anciennes sur le chemin de fer de Nîmes ou Vigan.
qu'on a abandonné par la suite parce que ça, c'était un peu bizarre. Je pense qu'ils ont tous été nettoyés à un moment. Puis, bien sûr, ici, il y a toutes les falaises naturelles. Donc, on peut voir une dynamique vers quelque chose qui existe comme état de référence. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce type de dynamique d'espèces, dans ces milieux très difficiles, finalement. Et là, c'est assez intéressant parce que si on met toutes les parcelles qu'on a étudiées, qui sont des triangles là-dessus, avec leur âge, on voit que les très jeunes se trouvent ici, après, et on va vers des espèces, et il y a un changement dans la composition des espèces, qui va vers les falaises qui ont une petite trentaine d'années, et après, boum, on retombe. Il y a deux phases dans la succession vers les falaises naturelles. Donc il y a une dynamique qui s'enclenche, et en effet, cette dynamique, on peut identifier les espèces qui sont impliquées, et là, ici, c'est surtout les espèces de type R, investissent beaucoup dans la reproduction, investissement, acquisition rapide de ressources, croissance très vite, annuelle, donc sans chute, trépice, on peut nommer les espèces, on peut classer les espèces là-dessus, identifier les 15 espèces sont les plus importantes dans cette phase, et là on va vers l'apparition de c'est Avinabromioides, je pense, et le thym, par exemple, qui tient beaucoup en ce sens. Et après, ça repart, et on a les Phalagnon sordidum et les genévriers qui commencent à arriver dans des falaises plus anciennes. Donc, il y a une phase qui va un peu comme une succession secondaire au début, des ruderales vers ceux qui investissent plus, le thym, les ligneux, les petits ligneux bas qui commencent à s'installer. Et après, non, on ne va pas vers une stratégie de compétition classique de succession secondaire en VF, et on ne sait pas exactement ce qu'on a comme stratégie, mais c'est un autre type de stratégie, peut-être la stratégie S, tolérante à des contraintes du milieu, là, qui sont dans ce type de milieu. Donc dans une prairie, par exemple, très aride, on peut voir au bout d'un certain nombre de temps si on laisse partir une succession qui devait se faire si les espèces sont disponibles dans les alentours. Donc, il y a une dynamique dans les stratégies d'adaptation qui peuvent se mettre en place aussi. C'était ça que je voulais dire par les exemples. Donc, on sait que des mésicoles, on a des espèces de moissons qui se ressemblent, qu'on trouve beaucoup sur calcaire, d'autres sur les sables, d'autres qui sont indifférents. Est-ce que ça, c'est des adaptations? Est-ce que c'est vraiment au calcaire ou plutôt juste à la ressource en eau? Est-ce que vraiment ces espèces sont adaptées ou pas? Il y a peut-être des études qui peuvent être faites pour valider ça. On voit que c'est des origines différentes. On sait qu'on a des espèces qui sont venues depuis loin, avec l'homme. Le fait d'être isolé des sources qui sont plus vers l'est a fait que maintenant on a probablement des entités génétiques qui sont différentes. Donc, et moi je lis souvent, quand je lis des choses sur la migration des espèces, soit les espèces domestiquées, soit les espèces comme les messicoles qui sont en grande partie, mais pas totalement venu avec le blé, avec l'homme, avec la laine, avec les moutons, etc., que maintenant on trouve des variétés différentes qui sont le résultat de plusieurs siècles d'adaptation au climat et aux pratiques agricoles. Je veux bien que ça soit adapté aux pratiques agricoles, parce qu'on voit bien les petites graines, etc., et la croissance rapide, et il y a plusieurs traits à voir avec, mais moi je n'ai pas de preuve je ne vois pas de preuve d'adaptation au milieu et ce genre de choses. Donc, d'ailleurs, si on regarde dans la flore méditerranéenne, pour les messicoles, vous allez avoir des variétés ici, ici, ici. Dans la flore méditerranéenne, vous avez la même chose à répétition. Il y a des dizaines d'exemples où on a, pour le même groupe d'espèces, des variétés différentes ici, ici, sud de la Grèce, dans les îles. Et ces variétés ont sans doute évolué du fait de l'isolement à plusieurs épisodes pendant l'histoire de la Méditerranée. Mais ça ne veut pas dire, moi je n'ai aucune preuve, même si j'étudie le cyclamène pendant longtemps, que cette espèce est plus adaptée à ce ici, que cette espèce sera. Je pense que c'est des phénomènes d'isolement géographique qui ont fait qu'il n'y a plus de flux de gènes, donc on évolue en isolement et différemment. Mais pas forcément en créant des adaptations locales tout le temps. Ce que je dis au début, pour une adaptation, il faut retourner à ce qu'il y a comme processus. Alors, les enjeux, donc régression rapide, besoin de priorité pour ces espèces, c'est une problématique de biodiversité un peu partout, nous on attaque le problème par les espèces protégées, le problème ici c'est les domesticoles qui régressent énormément, plus le problématique de savoir quelles espèces qu'il faut utiliser pour les projets de création de prairies. Plus on a une diversité d'enjeux, je pense, selon les territoires. Je pense que pas toutes les régions sont aussi riches les unes des autres en espèces en France. Donc il y a peut-être des priorités régionales à cadrer par rapport à ce qu'on va faire sur le plan d'action national. Il y a une certaine cohérence à faire entre régions. Et puis il y a des variations régionales sans doute en termes de changements de pratiques agricoles qui vont jouer le rôle essentiel dans le maintien de ces espèces. Elles ne vont pas pouvoir se maintenir sans qu'il y ait la pratique de gestion ou la pratique agricole qui va avec. Donc il y a sans doute des variations régionales sur la vulnérabilité en quelque sorte des espèces au changement de pratique de gestion. Donc il y a besoin donc de réfléchir aussi bien sur un cadre global que régional sur ce problème. Souvent, je vois que les classes, par exemple, pour décrire la rareté des espèces, je prends un exemple juste pour illustrer, il y a tout un ensemble de classes pour classer pas un énorme nombre d'espèces. Je comprends bien qu'on parle d'espèces qui sont disparues et d'espèces qui sont très communes, mais après, communes, assez communes, peu communes, assez rares, pas exceptionnellement rares, il est difficile pour moi de juger ce que ça veut dire. Donc, je pense que pour les gens qui n'ont pas de connaissances en écologie, qui sont des décideurs ou des élus, ou toutes ces classes pour un critère qui leur appartient, c'est peut-être difficile. Et ce que je pense, c'est qu'il faut avoir des critères, de toute façon, si on veut faire des enjeux, aussi bien pour la protection que pour le choix des espèces qu'on va utiliser, il faut avoir des critères qui sont quantitatifs. Mettre un chiffre là-dessus, si vous voulez. Et ce qu'on a développé, c'est parti d'ailleurs de l'étude qu'a fait JAM avec mon collègue Max Debuch dans les années 90 sur les espèces protégées en nombre de croustillants. Moi, je crois, nous, on utilise pour les espèces protégées trois critères. La responsabilité d'une région pour l'espèce en question, ce qui veut dire, c'est un critère qui est plutôt biographique, qui comprend la. Pour essayer de tenir compte de la distribution de l'espèce. Donc, essayer de calculer en quelque sorte la proportion de l'espèce qui est présente sur le territoire. Un autre critère, c'est la rareté de l'espèce dans la zone d'étude, dans la région d'étude, qui peut être le nombre de localités connues dans la base du conservatoire botanique, le nombre de communes où elle est présente. Là aussi, donc on peut chiffrer sa rareté. Des espèces très rares qui sont connues d'une seule localité dans la région à d'autres qui sont très répandues. Cette espèce qui est très rare localement, et peut-être elle est partout en France, et on a une responsabilité régionale moins importante. Souvent, le cas des espèces très endémiques d'un point, c'est-à-dire qu'ils sont très abondants localement, mais pas présents ailleurs. Et puis, l'autre critère est ce que je viens de dire. Les pratiques de gestion, les pratiques agricoles et la vulnérabilité des espèces à ces changements dans les pratiques ou la gestion pour le cas domesticole. Donc moi je vois trois critères importants qui tiennent compte de la rareté des espèces. Et puis on va essayer de chiffrer derrière ces critères, les trois critères. Par exemple, dans un contexte de rareté, on peut donner un score de 5 pour l'espèce qui est présente uniquement dans la région d'étude. Un score qui est fort. Par contre, une espèce qui est présente dans beaucoup de départements au nord de la région, dans beaucoup de localités, c'est à décider. C'est à titre d'exemple, on mettra un score beaucoup moins important. Et on peut chiffrer selon, par exemple, le nombre de localités connues en dehors de la région. Pareil pour la rareté, une espèce qui est présente uniquement dans une seule localité de la région, on va mettre un score qui est très fort. Et ça va diminuer jusqu'à des espèces qui sont très communes. Donc au lieu de parler de très communes, assez communes, on va mettre un chiffre. Comme ça, on peut commencer peut-être à hiérarchiser. Et pareil pour l'abandon. Là, je n'ai pas trop d'idées sur comment on fait, sur la vulnérabilité, mais il y a peut-être une réflexion à mener sur comment on peut classer les espèces selon la vulnérabilité au changement de pratique. Et c'est cette méthode on a utilisé suite aux premiers travaux de Jam et Max Dubuche pour la flore protégée à plusieurs échelles en France, dans les parcs, dans les régions, dans les départements, tout un ensemble d'applications qu'on essaie d'adapter ce mettre cadre à des situations différentes. Et je vous demande si ça ne sera pas manière aussi de réflexion sur la messicole à mener et par la suite le retourner pour des critères utilisés pour l'utilisation des espèces par la suite. Parce que ce qu'on peut faire, vu que c'est des scores, on a une liste d'espèces, on les donne chaque espèce un score pour la responsabilité patrimoniale ou régionale, sa vulnérabilité et sa priorité locale. On peut faire la somme et trouver que oh, il y a cette espèce 5-5-5, bon, prioritaire. Ou on peut faire la somme pour toutes et mettre ce qui a le score le plus grand en haut et descendre. Sinon, si on a une priorité, pour vous, pour les messicoles, il y a une priorité bien connue, bon, on décide de mettre ce critère qui est notre priorité en premier. Bon. Prenons l'exemple de responsabilité patrimoniale où on a une espèce qui est uniquement présente dans la région, mais c'est très important, on peut avoir ça comme priorité. Les espèces pour lesquelles on a une responsabilité très importante. Et donc, on décline d'abord toutes les espèces pour lesquelles on a une responsabilité patrimoniale très élevée, moyenne, en diminuant ça. Et après, on les range selon le score pour les autres critères dedans. Une sorte d'emboîtement, une vraie hiérarchisation des critères. Pour sortir ensuite un rang pour chaque espèce. Et on peut changer pour les priorités si on voulait, et on veut les 15 espèces pour quels critères aussi. Voilà. Moi, je pense que c'est une méthode qui pouvait peut-être s'adapter. Donc, voilà, donc je pense que peut-être, en mettant des critères à d'autres, liés à la biogéographie des espèces qu'on va utiliser pour fournir des graines, peut-être on peut adapter une méthode semblable. C'est peut-être plus long que vos délais actuels, mais une réflexion sur l'année peut-être pouvait être menée sur des critères qu'on peut quantifier, hiérarchiser et présenter. C'est ça parfois un peu plus de puissance. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'étais peut-être un peu plus long que prévu. Et puis, juste pour le risque, parce que j'ai oublié sur le cyclamen de pollution génétique, là aussi, je pense qu'il y a peut-être manière de classer les espèces, hein, selon les traits. Hein. On peut essayer de classer un risque faible, un risque fort. Un risque faible, ça sera où on sait déjà que la phénologie des deux variétés ne sont pas les mêmes, parce qu'ils viennent de la montagne, l'autre de la plaine. S'ils ne partagent pas le même pollinisateur, s'il y a une très forte adaptation dans un type de milieu, ce que je disais tout à l'heure, même si on introduit une autre variété, est-ce que vraiment il y aura un croisement qui va se maintenir? C'est pas sûr, mais il peut y avoir un peu de pollution initiale, mais à long terme, peut-être ça ne va pas se faire, la vraie pollution. Parce que si on introduit des variétés qui ne sont pas adaptées à un type de milieu, normalement, à terme, elles devraient disparaître. C'est à réfléchir. On a parlé de dactylis ce matin. Le dactylis est connu pour le niveau de ploïdie différent, c'est-à-dire le nombre de chromosomes différents dans les variétés différentes. Et quand on a deux variétés qui n'ont pas le même nombre de chromosomes, comme Hispanica et ce qui est cosmopolite un peu partout dans les champs, ils ne peuvent pas se croiser. Parce qu'ils n'ont pas le même nombre de chromosomes. Donc la méiose ne se fait pas. Donc il y a ça aussi à tenir compte. Hein. Et puis, l'autre, est-ce que l'espèce est autocompatible ou pas? Une espèce autocompatible va résister beaucoup plus à une pollution génétique qu'une espèce auto-incompatible. Parce que déjà, elle fabrique beaucoup de graines elle-même. Et donc, le pollen devient moins. Elle a déjà commencé à faire ses graines avant que le pollen de l'autre espèce arrive. Et à l'inverse, l'espèce auto-incompatible sera moins résistante à la pollution génétique, même degré de ploïdie, même phénologie, toutes ces traits. Donc, si on peut identifier quelques traits des espèces, auprès des variétés, on pouvait peut-être voir là où il y a vraiment un fort risque. Peut-être d'autres, comme je disais, peut-être des dactylis ou d'autres graminées, où on connaît bien ces différences chromosomiques entre les variétés. Et là, il y a un peu moins de risque.
Il y a peut-être aussi une question d'échelle spatiale du flux de gènes.
Ça va dépendre de l'espèce. Comme je disais tout à l'heure, toutes les plantes présentent des différences.